vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », nous vous proposons une entrevue avec Michel Lébreux, directeur d'école retraité, passionné d'histoire, auteur de l'ouvrage « Le pont de Québec ». Il est décédé en 2023. Danny Benz l'avait rencontré en février 2015.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je reçois un homme dont la carrière en enseignement a beaucoup marqué la population de la rive sud de Québec, où il a exercé 5 ans à titre d'enseignant au Collège de Saint-Romuald, pour ensuite compléter 30 années de service comme directeur à Bréquéville, à Saint-Nicolas, où il a d'ailleurs fondé l'école de la Martinière. On l'a aussi connu à Saint-Jean-Chrysostome et à Charny. Si ces indices ne sont pas encore suffisants pour vous permettre de l'identifier, j'ajouterai alors qu'il est reconnu comme le spécialiste de l'histoire du pont de Québec. Vous saurez alors que c'est avec grand plaisir que je reçois M. Michel Lébreux. M. Lébreux, bonjour.
Bonjour, Mme Benz.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bon. Alors écoutez, on est là pour partir un peu à la découverte de votre parcours de vie et de tout ce que ça a été. On va commencer par le début. La famille Lébreux, c'est un patronyme quand même assez particulier, mais très abondant sur la rive sud, hein?
Absolument. D'ailleurs, mon père est natif de Saint-David. Mais mes ancêtres, en tout cas mon ancêtre, celui qui est arrivé pour la première fois au Québec, s'appelait François Breu. Et le nom a été déformé avec le temps. Il y a des Lebreux et nous autres, ben, c'est la branche des Lébreux. Mais il y a une origine commune à tout ça. Et il y a beaucoup de Lebreux en Gaspésie. Mon père est natif de Saint-David. Moi, je suis né à Saint-Romuald. Mais c'est surtout sur la rive sud qu'on en retrouve.
Oui, c'est ça. Parlons-en de votre famille Lébreux, votre père, votre mère. Présentez-les-nous, s'il vous plaît.
Oui, alors moi j'ai eu la chance de naître dans une famille unie. Mon père travaillait sur le Canadien national comme chef de train. Alors il était une journée à la maison, une journée partie à Montréal à bord du train. Ma mère, je l'ai toujours connue à la maison. Et puis en plus de mes parents, bon, j'avais 2 sœurs. Moi je suis au milieu. J'ai une sœur un peu plus vieille, une un peu plus jeune que moi. Lorsque mes parents se sont mariés en 1941, sont allés demeurer avec mon oncle et ma tante, qui n'avaient pas d'enfants. Mon oncle était le gérant du Bell Téléphone dans le temps sur la Rive-Sud, de sorte que j'ai grandi dans un milieu où il y avait des opératrices du téléphone. Il y avait un appartement de la maison chez nous qui était consacré à ce qu'on appelait en français le switchboard dans le temps pour le téléphone.
Ah oui.
Et mon oncle, évidemment, était beaucoup plus âgé. Il est décédé, imaginez, en 1957. Il avait 81 ans.
Oh.
Il était né en 1876. Alors, il n'a jamais eu d'enfant, mais il me considérait un petit peu comme son fils. Alors, même si j'avais seulement 10 ans lorsqu'il est décédé, j'ai des bons souvenirs que j'ai conservés de lui. Et aussi, lorsque mon grand-père Paquette, mon grand-père maternel, est décédé en 1955, ma grand-mère est venue demeurer chez nous. Alors, ça me faisait une troisième mère, là, pour m'entourer.
C'est une famille élargie, là.
Exactement. Et puis, ma grand-mère, c'était une personne qui est une bonne vivante. Et puis, elle avait un sens de l'humour particulièrement développé. Et je vous dirais que j'ai hérité un peu de son sens de l'humour, parce que toute ma vie, j'ai aimé jouer des tours, j'ai aimé avoir du plaisir, créer une ambiance de détente dans les milieux de travail où j'ai œuvré. Alors, je pense que ça vient un petit peu de ma grand-mère maternelle.
Et à quoi vous rêviez, vous, le petit Michel, au milieu de tout ce beau monde, là, pour votre vie? Est-ce que l'idée là, de ce que vous alliez devenir était claire très jeune?
Pas très, très jeune. Je dirais que j'ai étudié au Collège de Saint-Romuald jusqu'à ma 12e année. C'était les Frères de Saint-Gabriel. J'ai des bons souvenirs que j'ai gardés du collège. Il y avait un milieu de vie intéressant. Il y avait des belles activités qui étaient organisées, une patinoire sur la cour. Les frères se consacraient vraiment à l'éducation des jeunes et j'ai gardé de bons souvenirs. Et même, je vous dirais, il y a un frère qui m'a enseigné en 5e et 6e année que je n'avais pas vu depuis 1958. Et il avait 23 ans à l'époque. Et puis à un moment donné, j'ai eu une indication comme quoi il demeurait maintenant à Saint-Jérôme. Alors une bonne journée où je me sentais particulièrement d'attaque, je l'ai appelé. Et puis je me suis présenté, il se rappelait de moi. Et même, il est venu à Saint-Romuald. Il n'était pas revenu depuis 1958. Et là, il avait 76 ans. Et je le revoyais 55 ans plus tard.
Ça doit être touchant, ça.
Absolument. Et là, je lui ai fait faire un tour de la ville pour voir un petit peu les changements qui étaient nombreux, qui étaient survenus depuis. Alors, je garde plusieurs bons souvenirs de mes études au collège de Saint-Romuald.
Vous aimiez étudier?
Oui, j'ai toujours été quelqu'un d'assez tranquille dans ce sens-là et j'ai toujours aimé les études, la lecture en particulier.
Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et parties toutes les sorcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangélina, Évangélina. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangélina, Évangélina. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique, dans les plaines et les vallons. Chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangélina, Évangélina. Tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi, un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain, alors, tu compris que les épreuves était fini, ainsi que le très long voyage. Évangélina, Évangélina. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse.
Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Evangelina, Evangelina. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent, car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie, ton nom dépasse les frontières. Ton nom, c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Evangelina, Evangelina.
On a peut-être reconnu la très belle voix de Marie-Jo Thériault interprétée Évangeline. Ça, pour vous, Michel Lébreux, c'est quelque chose de signifiant?
Oui, c'est une belle chanson. Souvent, quand on me demande, bon, c'est quoi tes chansons préférées, la chanson Évangeline vient toujours en premier lieu.
Elle vous fait penser à quoi exactement?
Ben, je pense que c'est d'abord une chanson, c'est une belle chanson qui raconte une belle histoire d'amour et c'est aussi un fait historique important de notre histoire, la déportation des Acadiens. Alors, la mélodie est belle, c'est une chanson douce qui est pleine de souvenirs. J'ai eu l'occasion déjà il y a plusieurs années de me rendre à Grand Pré et puis j'ai encore plusieurs images là, qui me sont restées de ce coin-là. Et lorsque j'entends Évangeline, ça me rappelle ces bons moments.
Michel Lébreux, on se disait, là, vous étiez heureux là, d'être aux études et d'apprendre, etc. Mais l'idée de travailler en éducation, ça vous est venu comment?
Ben, je dirais que c'est venu à la fin de mon cours secondaire, vers 11e, 12e année. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'avais fait mon inscription à l'École normale Laval. Mes parents n'étaient même pas au courant. Alors, je m'étais inscrit, puis je pense que là, j'avais pris la décision que c'est le domaine où je voulais œuvrer. Alors, j'ai fait mon cours à l'École normale. Dans le temps, on disait le brevet A, le baccalauréat en pédagogie. Alors, j'ai fait mes 4 ans d'études là pour commencer à enseigner par la suite au Collège de Saint-Romuald.
Oui, ça, c'est particulier, hein, de retourner enseigner à l'endroit où on a étudié. Comment vous vous sentiez?
Oui, bien, il y avait beaucoup de souvenirs qui étaient rattachés à la bâtisse parce que d'abord, je demeurais aussi dans la rue du collège.
En plus.
Alors, c'était mon milieu. J'ai enseigné là d'abord au secondaire. C'était l'année avant l'ouverture de l'ESLE à Charny.
Mm-hmm.
Alors, j'ai enseigné au secondaire. Ensuite, il y a eu la création de la commission scolaire Chaudière et de Chemin. Et on m'avait offert de demeurer en 6e année, ce qui me permettait de rester dans la même école, et surtout que mon épouse enseignait au couvent, de l'autre côté de l'église. Alors, on y était tout près. Et j'ai enseigné là jusqu'en 72, et c'est en 1972 qu'on m'a offert un poste de directeur d'école. En tout cas, on m'a offert de me présenter à un concours. Et c'est là que j'ai commencé à la direction d'école en 1972. C'était à l'école de Bréquéville à l'époque.
Oui,
l'école Sainte-Hélène.
Oui, oui. Ben donc ça s'est présenté comme ça. C'est pas tous les professeurs qui ont le goût de prendre cette direction-là. Qu'est-ce qui vous motivait, vous?
Ben j'y avais pas pensé. C'est que mon directeur de l'école à ce moment-là était venu me trouver en me disant, t'es au courant qu'il y a un concours qui vient de s'ouvrir pour l'école Sainte-Hélène. Alors il m'a dit, je te verrais bien là. On pourrait travailler ensemble. Alors, c'est ce qui m'a donné l'idée de me présenter au concours, et puis je l'ai gagné. Et c'est là que j'ai commencé à œuvrer comme directeur d'école. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas la tâche d'aujourd'hui. Si je compare ma première année de direction d'école avec les dernières années que j'ai fait, hein, c'est le jour et la nuit. C'était beaucoup plus familial, beaucoup plus simple à l'époque. Quand j'ai commencé à la commission scolaire Chaudière-Etchemin, on était 11 écoles. Et lorsque j'ai pris ma retraite, ben, je pense qu'on était rendu dans les près de 50 écoles.
Alors, ça multiplie les réunions, ça. Hein?
Les réunions, puis ça alourdit le système aussi, je dirais, en général.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez commencé comme directeur comme ça. Et là, vous l'avez mentionné entre-temps, parce que là, une vie, c'est pas rien que le travail. Hein. Il y a eu la rencontre avec, je pense qu'elle s'appelle Nicole.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes rencontrés aux études?
Non. La première fois que je l'ai vue, c'était... je m'occupais d'un mouvement à Saint-Romuald qui s'appelait la Légion de Marie. J'étais président de la Légion de Marie. Et à chaque année, dans la période de Noël, on organisait une visite à l'Hôpital général de Québec. Alors, il y avait l'abbé Raymond Laplante, qui était vicaire à Saint-Romuald, qui était l'aumônier de notre organisme. Et puis, on organisait avec lui une visite à l'Hôpital général. Et je recrutais des garçons, puis il y avait une fille qui s'occupait de recruter des filles. Et on faisait une pratique de chant avant d'y aller. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue pour la première fois. Alors, je l'avais remarquée. Et ensuite, comme elle étudiait à l'École normale Notre-Dame de Québec et qu'on avait l'occasion souvent de prendre le même autobus, alors j'ai souvent, avant que j'embarque dans l'autobus, elle s'assoyait au bord du banc. Et lorsqu'elle me voyait arriver, elle se tassait pour me faire une place. Alors, c'est comme ça que nos fréquentations ont commencé, là, dans nos années d'études à l'École normale.
Donc, vous saviez aussi qu'elle s'en allait vers l'enseignement,
oui.
Ce qui était pour vous rapprocher aussi, dans le fond.
Aussi, exactement.
Alors, deux éducateurs.
C'est ça, exact.
Alors, une complicité. Et il y avait aussi la possibilité assez simple de concilier famille et travail dans ces cas-là?
Oui, comme je vous le mentionnais, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais au collège de Saint-Romuald, elle était au couvent de Saint-Romuald, donc on était tout près. Et à l'époque, évidemment, on n'avait pas encore d'enfants. C'est venu un petit peu plus tard, là. En 1971, on a eu une première fille, Josée, qui a maintenant 43 ans aujourd'hui.
Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça, quand tu m'appelles mon petit loup, avec ta petite voix. Tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça, je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs, chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça, je ferai tous les planétariums,
chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as. Une chance qu'on sort, je ferai tous les planétariums. Je t'ai, tu m'as cherché dans toutes les galaxies. Une chance qu'on sort, une chance qu'on s'aime.
Ça, c'est une chanson pour saluer Nicole, Monsieur Lébreux.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on se répète souvent. Et moi, j'ai eu la chance quand même de marier une bonne personne. Nicole est une bonne épouse, ça a été une bonne mère de famille et c'est aussi une bonne grand-mère. C'est une personne qui a des bonnes valeurs. Alors, elle m'a donné 3 filles. On a 7 petits-enfants aussi en même temps qui vont de 5 à 18 ans. Alors, elle a toujours été présente et même à la naissance de notre 2e fille, en 1973, elle a eu la générosité de laisser son emploi. À l'époque, il n'était pas question de congé sans solde ou de diminution de tâches. Alors, c'est un choix qu'il fallait faire et puis elle a accepté de mettre sa carrière de côté pour élever la famille. Et lorsqu'elle a voulu reprendre, évidemment, c'était pas aussi, les ouvertures dans l'enseignement n'étaient pas aussi faciles. Alors, elle a dû faire de la suppléance pendant 14 ans avant de revenir à temps plein par la suite.
Oui, c'est quelque chose, hein?
Alors, si j'ai pu, justement, écrire des livres et donner autant de conférences, ben c'est probablement parce qu'elle était là pour garder le fort.
Oui, c'est ça. Alors, on en parlait, vous êtes maintenant vers la direction des écoles. Et quand on est directeur d'école, on a beaucoup de responsabilités, mais il y a aussi des gens qui nous soutiennent là-dedans. Si je vous dis Monsieur Leblanc, là, ça vous dit quoi?
Oui, alors Monsieur Leblanc, ça a été mon premier directeur général.
Médard
Leblanc. C'est un bon monsieur qui est décédé aujourd'hui. Alors, c'est lui le premier, je dirais, qui m'a fait confiance. Et je m'ai engagé comme enseignant, mais aussi lorsque j'ai commencé comme directeur d'école, j'avais seulement 25 ans. Alors, j'étais assez jeune pour avoir quand même une tâche assez importante, des responsabilités. Alors, je garde de bons souvenirs de M. Leblanc. C'est un bon bonhomme, c'est un monsieur sympathique, un homme simple qui était apprécié de tout le monde. Alors, lorsque je me rappelle et je me souviens que son anniversaire, c'était le 5 juin. Et même lorsqu'il a pris sa retraite, à chaque année, le 5 juin, je l'appelais pour lui souhaiter bonne fête. Puis, il semblait l'apprécier. Puis, j'en profitais justement pour lui dire que j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait pour moi. Alors, c'est des bons souvenirs qui sont rattachés à M. Leblanc. Il a été remplacé par Mme Touzin aussi, que j'ai appréciée par la suite comme directrice générale.
Oui. Alors, donc, des belles années où... Mais finalement, vous deviez pas penser de rester si longtemps que ça. Hein? Des charges de direction d'école, est-ce que c'est comme ça partout? Est-ce qu'on doit nécessairement changer d'école comme ça régulièrement?
Ouais, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une politique à notre commission scolaire où on avait établi à peu près à 6 ans le temps maximal qu'on pouvait passer dans une école.
Mm-hmm.
En 1977, moi, j'ai parti l'école La Martinière à Saint-Nicolas.
Oui. Mm.
Et j'ai été engagé avant que l'école soit construite. Alors, j'ai dû travailler un petit peu sur les plans de l'école. J'ai eu des rencontres de chantier. Parallèlement à ça, j'étais directeur dans une autre école que je devais aussi continuer à diriger. Et ça a été une grosse tâche. C'était une belle expérience que j'ai vécue, mais c'était aussi fatigant. Et je me rappelle que j'ai terminé cette année-là, là, j'étais complètement vidé. Ça a été une belle expérience. Et je pense que comme c'était la première nouvelle école de la commission scolaire, on s'est rendu compte, évidemment, que c'était peut-être beaucoup pour un seul homme. Alors, dans les écoles qui ont été construites par la suite, ben là, il y a eu une aide supplémentaire qui a été apportée. Mais c'est quand même une belle expérience à vivre dans une vie que de partir une école et de l'amener à terme. Et là, j'ai été 11 ans à cette école-là. Et par la suite, ben là, il y a eu une politique. Et je suis allé par la suite à l'école des Mousserons, à Saint-Jean-Chrysostome, où je suis demeuré 6 ans. Ensuite, je suis allé à l'école des Petits Cheminots à Charny. J'ai été 2 ans. Ensuite, à l'école Taniata à Saint-Jean-Chrysostome, une autre école de Saint-Jean, où je suis demeuré 6 ans jusqu'à ma retraite.
Alors donc, c'est ça, une politique qui permettait de finalement faire un brassage.
Une rotation, et je pense que chacun a ses forces. Alors moi, je mets l'accent sur des choses dans mon école, et lorsque quelqu'un vient me remplacer, ben là, peut-être ça s'équilibre en mettant l'accent ailleurs. Alors, en même temps, c'est un enrichissement. C'est sûr que c'est difficile de laisser un milieu où on est connu, où on a fait nos preuves et tout ça, puis arriver dans un milieu tout à fait inconnu à côté. Il y a un certain vertige au début, mais on s'habitue et on se rend compte finalement que c'est un enrichissement pour tout le monde. Hein, parce que chaque milieu a ses forces, on apprend à connaître de nouvelles personnes. Et puis en même temps, bon, on a l'impression d'apporter des choses. Alors au bout de la ligne, je pense que ça crée un équilibre dans tout ça.
Je me permets de revenir, Michel Desbreux, sur la fondation de cette école, La Martinière, parce qu'en fait, à cette époque-là, sur la rive sud de Québec, c'était l'explosion démographique, hein? Et donc ça, c'est une école pour préscolaire et primaire,
ouais.
Hein?
Alors, c'était une école, il y avait préscolaire et il y avait le primaire jusqu'à 6e année. Alors, il y avait à l'époque, je pense que j'avais 450 ou 500 élèves, et puis... Je me rappelle qu'il fallait aussi faire des transferts parce que l'arrivée du pont Pierre-Laporte en 1970 a fait en sorte que beaucoup de gens sont venus s'établir sur la rive sud. Et là, à Saint-Nicolas particulièrement, et aussi à Saint-Jean-Chrysostome, là, les jeunes familles, ça poussait et puis on manquait de place. Et je me rappelle que certaines années, je devais transférer jusqu'à 7 classes dans d'autres écoles,
oh.
Ce qui n'était pas une mince tâche, oui. Hein, parce qu'on avait une école neuve, une belle école. Et lorsque les parents apprenaient que leur enfant devait changer d'école, ben c'était décevant pour tout le monde. Alors, c'était pas plus intéressant pour moi de leur annoncer, là, mais on n'avait pas le choix parce qu'on avait une capacité limitée de place élève. Et après ça, ben il y a eu plusieurs nouvelles constructions. Alors, même encore aujourd'hui, on construit encore de nouvelles écoles sur la rive sud.
Alors oui, mais ça doit être émouvant de se dire, on a fait tous les plans, ça va être une nouvelle école, et il y a un beau matin ou une belle après-midi où on peut couper le ruban et prendre possession de ces lieux-là tout neufs. Comment vous vous êtes senti?
Oui, j'étais fier, évidemment, comme je vous le mentionnais, c'est une belle expérience, et surtout l'école La Martinière, c'était une école dont le plan plaisait beaucoup au ministère de l'Éducation. Aussitôt qu'une commission scolaire au Québec avait un projet de construction d'école, on leur disait, avant de choisir un plan, allez visiter cette école-là.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier?
C'était une école, bon, on parlait d'aires ouvertes à l'époque. Alors, c'était la mode des aires ouvertes. Alors, nous autres, c'était des aires ouvrables, c'est-à-dire les murs étaient sur roulettes. On pouvait fermer et ouvrir à volonté. Alors, c'était, à l'époque, évidemment, c'était la mode. Et puis, c'était innovateur aussi comme projet. Alors, il y a beaucoup de... À tous les vendredis, j'avais une délégation d'une commission scolaire qui venait visiter l'école. Le ministère m'a envoyé le ministre d'Éducation de la Belgique, l'inspecteur général de France, une délégation de l'UNESCO. Finalement, j'aurais pu être guide touristique régulièrement dans cette école-là.
Ouais, c'est quand même spécial. Alors, c'est une petite curiosité. Des fois qu'on se promène du côté de la Rive-Sud, au moins passer devant cette école-là pour aller voir ce qu'elle a de si particulier.
Ouais, c'est une belle école et ce modèle-là a servi parce que ça m'arrive des fois d'aller au Québec dans d'autres villes, puis je vois que le modèle lui ressemble beaucoup. Alors, je me dis probablement qu'on a copié une partie de cette école-là.
C'est une cousine.
C'est ça.
C'est donc la chance que nous avons aujourd'hui d'être toujours en compagnie de M. Michel Lébreux, qu'on a connu sur la rive sud de Québec comme directeur d'école pendant 30 années. Il avait aussi enseigné pendant 5 ans, donc une belle carrière en enseignement. Mais on le connaît aussi beaucoup partout au Québec et même ailleurs à cause de son intérêt marqué pour l'histoire du pont de Québec. Avant de plonger dans vos bonheurs d'historien, Michel Desbrus, j'aimerais ça qu'on conclue quand même sur ces quelques considérations par rapport à votre carrière à la direction des différentes écoles. On le disait, c'est quand même pas nécessairement facile de quitter une école dans laquelle on s'est investi de cœur, d'âme, j'imagine bien, là, qu'on connaît tous les raccoins, on connaît tout le personnel, on connaît les parents, les élèves, c'est un milieu de vie vraiment particulier qu'une école.
Absolument, on devient comme enraciné dans notre école parce qu'on connaît les élèves, on connaît le personnel, on connaît bien les parents aussi. Lorsqu'on demeure plusieurs années, même dans une même famille, on a l'occasion de passer plusieurs enfants de la même famille, donc on s'attache à ces gens-là. Et à chaque fois qu'on est appelé à changer d'école, après un certain nombre d'années, mais c'est un arrachement chaque fois, ça nous fait de la peine. On part d'un milieu connu pour être transplanté dans un autre milieu où on a à faire nos preuves. On a aussi à repartir à zéro, mais c'est aussi enrichissant de le faire.
Oui. Donc, vous avez fait ça quand même plusieurs fois et c'était des écoles de grandeur variable, hein?
Oui, ben c'est ça. Disons qu'en général, c'était autour de 400, 450. J'en ai eu, lorsque je suis arrivé à l'école Taniata, j'avais 660 élèves. Alors, c'était quand même une assez grosse école. J'avais une adjointe à ce moment-là. Et puis après ça, ben, il y a eu des coupures qui font que l'adjointe est devenue une demi-adjointe. Puis après ça, une journée semaine. Alors, il a fallu quand même se débrouiller. Mais j'ai travaillé fort. Puis je pense que j'ai quand même assez bien réussi.
Et s'il y a une chanson là qui est particulièrement signifiante dans une situation comme celle-là, c'est la prochaine dont on parle tout de suite après.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons et quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. L'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter. Vous en
C'est formidable d'avoir travaillé dans un milieu de travail où on entend comme ça des gamins dans la cour tous les jours, hein?
Absolument.
C'est un bruit tout à fait spécial.
Absolument. Tu sais, c'est plaisant d'être au milieu des enfants, puis d'apprécier leur candeur, puis de les recevoir au bureau pour les féliciter. Hein, moi, je voulais pas être seulement celui qui donnait des punitions. Je voulais aussi apprécier de les recevoir. Je demandais au professeur, lorsque un élève fait un bon coup, il a fait un effort particulier, je veux le rencontrer, je veux écrire un petit mot dans son agenda. Et ça m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer des élèves que j'ai eus il y a 25-30 ans, puis de me rappeler des souvenirs, puis de me dire des choses que moi j'ai oubliées, mais si je me dis, s'ils s'en rappellent après 25-30 ans, c'est parce que ça les a marqués.
Oui, ça leur a fait
du bien. Et ça, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'à tous les jours, je rencontre des anciens élèves. Puis c'est toujours plaisant de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après toutes ces années.
Il y en a sûrement qui sont allés en éducation.
En éducation. Et je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais il y a quelques années, la Société canadienne de génie civil m'ont remis un prix à l'occasion d'un congrès. Alors, on m'avait invité à aller à Montréal à leur congrès pour la remise du prix. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, il y a deux gars qui sont venus me rencontrer pour me dire « Si on est ici, monsieur, c'est parce que vous êtes venu nous parler du Pont Québec au moment où on était à l'école. » Ça les avait marqués. Il y avait probablement des prédispositions à ça, mais ils ont étudié en génie, étaient devenus ingénieurs, et là, je les revoyais au congrès de la Société canadienne de génie civil. Alors, quand on entend des témoignages comme ceux-là, ben, ça fait plaisir. On se dit ce qu'on a fait, mais ça servait à quelque chose.
Racontez-nous, parce que maintenant, on met le doigt dessus, là, l'histoire du Pont de Québec, ça vous est venu comment de vous attacher à cette histoire-là?
C'est venu, j'étais très jeune. Moi, j'habitais à Saint-Romuald, près du fleuve. Je voyais le pont qui me fascinait déjà quand j'étais très jeune. Il y avait également chez mes parents une grande photo du pont quand il est tombé la première fois. Alors, quand il venait des gens chez nous, on parlait du pont, on s'intéressait à cette photo-là. Alors, j'entendais raconter des choses concernant les catastrophes et tout ça. Alors, un bon jour, j'ai eu le goût d'en savoir plus, et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. C'était pour mon bon plaisir. Et là, ça s'est su que je m'intéressais au pont, et on m'a demandé pour aller donner des conférences. Alors, la première conférence que j'ai donnée, c'était en 1972, je pense. Donc, ça fait longtemps. Et depuis, j'en ai donné plus de 2000.
Oui.
Alors, j'ai rencontré toutes sortes de catégories de personnes. Je vais beaucoup dans les écoles encore parler du Pont Québec, à tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. Je rencontre des personnes de l'âge d'or, des groupes d'ingénieurs. C'est très diversifié comme public, mais je me rends compte qu'il n'y a personne qui est indifférent à cette histoire-là, parce que d'abord, c'est un pont exceptionnel, puis qu'il y a une histoire qui est fascinante. Alors, moi, ma conférence dure 2 heures. Et je présente 375 photos d'époque que je commente. Alors, il y a un support visuel à tout ce que je raconte. Et puis, au cours de ces années-là, les gens me disaient, ben, tu devrais écrire ça, il n'y avait pas de livre là-dessus. Alors, j'ai publié mon premier livre en 1986. Et ce livre-là s'était vendu à 10 000 exemplaires. Et là, quelques années plus tard, il y a beaucoup de gens qui avaient communiqué avec moi, j'avais poursuivi mes recherches. Alors, en 2001, j'ai fait une deuxième édition, revue et augmentée. Et ensuite, en 2008, à l'occasion du 400e de Québec, j'avais suffisamment d'éléments pour refaire une troisième édition qui continue de se vendre encore aujourd'hui.
C'est pas rien, ça, au Québec, quand même.
Oui. Et puis, j'ai fait aussi un livre. Il y a une maison d'édition de Montréal, Les 400 coups, qui m'ont demandé d'écrire un livre pour les jeunes sur le pont de Québec, qui ont fait traduire en anglais. Donc, actuellement, je dirais, il y a le livre, la troisième édition, qui est encore sur le marché. Celui pour les jeunes et celui en anglais également. Alors, c'est toujours agréable parce que moi, lorsque je vais donner des conférences, bien souvent, les gens veulent garder un souvenir de tout ça. Alors, ça me fait plaisir de leur dédicacer à ce moment-là.
Oui. Donc, vous vous intéressez non seulement à son histoire, mais aussi à son devenir parce qu'il y a une société là, qui s'est formée aussi.
Oui. On avait formé le premier comité pour la sauvegarde du pont en 1987. C'est devenu en 93, je pense, la Coalition pour la sauvegarde du pont. Bon, ce groupe-là n'existe plus aujourd'hui, sauf que je continue à m'en faire un petit peu le porte-parole. Et souvent, lorsque les journalistes veulent communiquer avec quelqu'un pour avoir des informations concernant le pont, ben, c'est souvent chez moi qu'on appelle en premier. Alors, je continue à m'y intéresser. J'ai beaucoup de contacts avec des gens. Et puis, actuellement, ben, je suis content de voir que les maires de Québec et de Lévis ont décidé là, de prendre le projet en main. Puis, je sens qu'il y a une volonté politique. Très longtemps, j'avais l'impression d'être pas mal tout seul à défendre la cause du pont. Mais là, aujourd'hui, je sens qu'il y a plusieurs personnes, puis les gens réalisent l'importance de ce pont-là. D'abord, il y a une grande utilité, mais c'est aussi un pont exceptionnel, hein, qui a reçu des titres de noblesse importants au cours des années de la part des ingénieurs. Et il ne faut pas le laisser à l'abandon, parce que ça a toujours été une carte postale de Québec, le pont. On l'a toujours qualifié de merveille du monde. Alors, c'est un pont, c'est le plus long pont quand il est vert au monde. Alors, même encore aujourd'hui. Et ce sera toujours, puisqu'on ne construit plus ce type de pont-là.
Oui.
Alors, sa caractéristique principale, c'est qu'il a 1800 pieds de portée libre entre ses piliers principaux. Et le deuxième en importance est situé en Écosse, le Firth of Forth Bridge, qui lui a 1710 pieds, soit 90 pieds de moins que le pont Québec.
Oui, oui.
Alors, je pense qu'il faut l'entretenir, il faut le préserver. Et puis, en même temps, je pense que ça peut être, pour les touristes, une attraction importante. Si on peut le mettre en valeur, alors on peut raconter son histoire, avoir un centre d'interprétation. On pourrait avoir aussi des projets de visite de la structure, comme ça se fait, par exemple, dans d'autres villes. En toute sécurité, les gens pourraient marcher sur le pont, le visiter dans sa structure. Et ça se fait ailleurs.
Est-ce que c'est un projet qui est dans vos cartons, ça?
Ben, c'est-à-dire, il y a même deux ingénieurs de la région de Québec qui ont élaboré ce projet-là et qui étaient venus nous le présenter à la coalition il y a quelques années. Et puis, on était favorables, évidemment. Tout ce qui peut mettre le pont en valeur, ben, je pense qu'on se doit de le favoriser. Sauf que le pont appartient au Canadien national qui s'était objecté, évidemment, à ce que ce projet-là soit mis de l'avant. Alors, on sait que le Canadien national est une compagnie privée. Alors, moi, je pense que c'est pas normal qu'un bien patrimonial de cette importance appartienne à une compagnie privée qui peuvent en disposer comme ils veulent. Et on connaît actuellement les problèmes d'entretien du pont. Alors, les gouvernements ont annoncé 100 millions qui sont prêts à mettre sur la peinture à la condition que le CN en mette autant. Ce qu'ils refusent de faire encore aujourd'hui au moment où on se parle.
Oui. Oui, oui. Donc ça, c'est une histoire à suivre. Et c'est pas la seule histoire qui vous a intéressé. Vous vous intéressez tellement à l'histoire, Michel Lébreux, que vous êtes un des fondateurs de la Société historique de Saint-Romuald.
Oui, absolument. On a fondé en 1992 la Société d'histoire de Saint-Romuald. On regroupe actuellement 300 membres. Alors, il y a 300 personnes qui assistent, bon, pas toujours tout le monde à chaque fois, là, mais à nos conférences. On organise une conférence par mois. Et on publie une revue qu'on appelle la Carvelle, qui est publié une fois par année et qui se sont sur des thèmes historiques. Qui ont
ça veut dire quoi, la carvelle?
Une carvelle, c'est un grand clou qu'on enfonçait dans les morceaux de bois pour construire des quais autrefois. Alors, lorsqu'on a fondé la Société d'histoire, on avait quelques archéologues avec nous et c'est eux qui avaient suggéré ce nom-là pour notre revue. Alors, une carvelle, c'est un grand clou, là. Et on en retrouve encore parce qu'on a un peu partout des quais qui sont en décrépitude un peu partout. Et les grands clous qu'on retrouve encore dans ces gros morceaux de bois-là, ben, ce sont des carvelles.
Mmh. Alors, donc, l'objectif, c'est de s'intéresser à toutes sortes de pans de l'histoire quand on est à la Société d'histoire.
Oui, absolument. Alors, comme je vous disais, on organise des conférences, on fait des publications, mais aussi on essaye de ramasser des archives. Alors, on a quand même des fonds d'archives assez importants qu'on essaye de classer puis d'organiser. Et puis, on veut garder la mémoire de Saint-Romuald, qui a aussi une histoire fascinante. Et on a des projets. Depuis quelques années, on installe devant des maisons historiques des plaques pour identifier ces maisons-là où il y a des personnages importants qui ont vécu. Alors, actuellement, on a 21 maisons qui sont identifiées pour lesquelles on a mis des plaques. Et puis, notre prochaine revue va porter justement sur ces maisons-là, à l'intérieur desquelles il y a des gens qui ont vécu et qui ont fait des choses un peu extraordinaires. Alors, ça nous amène à déborder de la maison comme telle pour parler de l'histoire de la maison et des personnages qui ont vécu.
Je t'aime, yes I love you, each liberty, mi ulite. Je t'aime, aishte masu, chewai, yo hawate. Pour toi, tout mon pays, ami, cœur et saison. Pour t'accueillir ici, à sa façon. Avec toi j'ai grandi par l'effort et l'exploit. Aujourd'hui l'univers est sous mon toit.
Vous nous faites vraiment retourner en arrière, Michel Lébreux, avec ça, là. Hein? C'est... Présentez-nous cette chanson.
C'était la chanson gagnante des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Je me souviens que Radio-Canada avait lancé un concours pour demander à des gens de composer une chanson. Et il y avait eu 10 chansons finalistes, dont celle-ci. Et c'est elle qui était la chanson gagnante qui a été jouée au moment de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques en 1976. Alors, c'est une belle chanson, une belle mélodie, où on entend différentes langues et qui montre en même temps un rassemblement des peuples pour la bonne cause. Alors, moi, ça m'avait marqué, parce que les Jeux olympiques en 1976, c'était tout un événement hein, pour la province et pour Montréal en particulier. Et ça fait partie également de mes bons souvenirs.
Oui. Avec l'esprit de Pierre de Coubertin.
Oui.
On parle de cette société d'histoire là dans laquelle vous êtes bien impliqué puisque vous en êtes aussi le fondateur, mais il y a aussi d'autres personnes là que vous y rencontrez et qui sont importantes pour vous, des personnes qui vous stimulent là, ou qui vous ont stimulé.
C'est ça. Alors le travail, ce qui est agréable, c'est qu'on le fait avec des gens qui sont des amateurs d'histoire comme moi, des gens qui sont des passionnés. Alors, je pense qu'on forme une belle équipe. Sur notre conseil d'administration, on a 13 personnes. Et puis, chacun a un rôle à jouer, un rôle important. On se complète bien. Et c'est ce qui permet de faire en sorte que nos réalisations ont du succès auprès de nos membres. Les gens participent bien. On entend de bons commentaires concernant nos publications également. Et puis, ben, il y avait entre autres M. Jacques Lemieux. Hein, Jacques, qui est un historien, qui est un géographe, qui est malheureusement décédé. Alors, c'était aussi un membre fondateur avec moi. Jacques, c'était un érudit, c'est quelqu'un qui avait de multiples talents. C'est un écrivain, c'est un sculpteur, il a fait de la peinture, c'est même lui qui a créé le drapeau de la ville de Lévis qu'on a actuellement. C'est un spécialiste en héraldique. Alors, il a créé le blason de la Société d'histoire du domaine Longwood. Alors, c'est un gars multiple talent, mais qui avait gardé une grande simplicité, avec qui c'était agréable de travailler. Alors, malheureusement, Jacques n'est plus là, mais on pense souvent à lui quand même.
Oui, oui. Il y a aussi d'autres points qui sont pour vous fort importants, Michel Lébreux, et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est justement l'importance des personnes âgées. On parle des monuments, de Pont de Québec, des maisons, c'est bien beau, mais l'histoire des gens aussi, c'est quelque chose qui vous touche. Et pour vous, les personnes âgées n'ont pas l'espace qui leur reviendrait.
Oui, ben, je pense que c'est ça. C'est une grande richesse d'avoir parmi nous des gens qui ont du vécu. Et je trouve qu'on profite pas assez de ce monde-là. Ça pourrait jouer dans les deux sens. On peut les divertir, mais on peut aussi apprendre beaucoup avec ces gens-là. Et je trouve ça malheureux. Et quand j'ai l'occasion de donner des conférences, moi, à des groupes de l'âge d'or ou à des personnes âgées, je vois briller dans leurs yeux, hein, parce que ça leur rappelle des souvenirs, le Pont de Québec. Et puis, ça me fait plaisir de le faire, puis je sens que ça tombe dans un terrain propice, puis chacun a toujours une anecdote, une histoire à raconter qui contribue à m'enrichir, moi aussi. Alors, on pourrait profiter davantage de ces gens-là. Et puis moi, lorsque j'ai commencé mes recherches dans les années 70, j'ai côtoyé, entre autres, M. Georges Charest, qui, lui, déjà était âgé à l'époque. M. Charest avait travaillé sur le Pont de Québec, et il avait même fait une chute en bas du Pont de Québec en 1924. M. Charest est tombé à 8h30 le matin en bas du pont, une chute de 82 pieds. Il y a eu 22 fractures dans tout son corps, 2 fractures du crâne, un œil sorti de son orbite, et il a réussi à survivre à tout ça. Et lorsque je le rencontrais, qu'il me racontait un peu sa vie de travailleur au Pont de Québec, souvent il me faisait toucher parce qu'il y avait... Il y avait des plaques de métal un peu partout. On l'avait reconstitué, mais c'était quelqu'un qui avait une forte constitution et c'est ce qui lui a permis de passer au travers. Il avait souffert le martyre, il avait été hospitalisé pendant 9 mois. Et c'est lui qui avait écrit la préface de mon premier livre. Et je garde de bons souvenirs parce qu'il m'a apporté beaucoup. Il m'a fourni des photos, il m'a raconté. Lui, il l'avait vécu, l'histoire.
Oui.
Alors, il m'a apporté beaucoup. Puis je pense souvent à lui, M. Charest. Il y a aussi M. Demers, Armand Demers, qui est natif de Saint-Romuald. En 1940, quand il s'est marié, il est allé demeurer à Chicoutimi. Mais dans ses années à Saint-Romuald, il s'était occupé du théâtre, du sport. C'était un organisateur né et en même temps un archiviste parce qu'il conservait des souvenirs de tout ce qu'il faisait. Alors, il a passé plusieurs années à Chicoutimi. Et comme sa famille maintenant était rendue dans la région de Québec... Alors, il est revenu demeurer à Sainte-Foy, et c'est à ce moment-là, moi, que je l'ai connu. Et puis, il a communiqué avec moi parce qu'il avait lu mon livre sur le Pont de Québec, il voulait m'en parler, et il est devenu membre de notre société d'histoire, et il nous a donné ses archives. Il avait conservé des choses extraordinaires, toujours bien identifiées. Il y avait le souci, lorsqu'il y avait une photo, d'indiquer le nom des personnes, de l'année où ça avait été pris. Alors, il nous a apporté, il nous a donné des archives, mais il nous a donné plusieurs témoignages aussi. Ça a été enrichissant de côtoyer un personnage comme lui. Il est décédé, évidemment, depuis quelques années, mais ça fait partie de mes bons souvenirs de M. Demers.
Michel Lébreux, vous êtes donc retraité officiellement là, du monde de l'enseignement, mais fort occupé avec toutes les sollicitations que vous recevez de part et d'autre. Mais ce projet de retraite très active, comment vous le vivez avec votre conjointe?
Bon, d'abord, on patine. On aime ça, le patin. Alors, il y a 2 demi-journées par semaine qui sont consacrées au patin. On essaie de garder ces plages-là pour faire de l'activité physique. Alors, évidemment, ma femme patine aussi. On fait ça à l'aréna de Saint-Romuald. C'est très bien organisé avec de la musique de notre temps, de la belle musique. Il y a toujours une centaine de personnes à chaque fois qui sont là. Alors, il y a des gens que j'ai retrouvés au patin parce que je les avais connus à l'école dans le temps. La vie nous avait séparés, mais là, je les retrouvais plusieurs années plus tard. Il y a aussi plusieurs personnes que j'ai connues à cet endroit-là. On fait de la bicyclette, on prend beaucoup de marches aussi, on essaye d'équilibrer un peu notre vie. La lecture, on va visiter des musées occasionnellement, on va assister à des conférences. Alors, je ne fais pas juste en donner des conférences, mais j'aime ça aussi aller écouter d'autres personnes qui ont à nous apporter des choses. Et... moi, un de mes plaisirs, ben, c'est de faire de la recherche. J'aime ça découvrir des choses, fouiller dans des documents, pour ensuite peut-être transmettre ça à d'autres dans des publications. Alors, chaque journée m'amène de nouvelles demandes. Je reçois des demandes régulièrement pour toutes sortes de choses. Quand je peux y accéder, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir accommoder des gens, puis leur donner des informations ou des documents que j'ai, parce que j'en ai accumulé beaucoup au fil des années. Alors, je dirais que c'est des choses simples qu'on fait. On a une retraite simple, mais assez occupée quand même. Puis à travers tout ça, il y a les 7 petits-enfants. Alors, comme grands-parents, c'est une grande joie de la vie, hein, de les rencontrer, de les soutenir, de les aider. Hein. Chacun a sa personnalité différente. Puis on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de les encourager puis de les soutenir dans les différents projets.
Justement, parlant de projet, en terminant cette rencontre, Michel Lébreux, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de plus important?
Ben, moi, je dirais que c'est la santé, hein, parce que la santé, ça fait foi de tout. Lorsqu'on est en forme, on peut réaliser beaucoup de choses, on peut profiter de la vie davantage, on peut continuer à aider les autres puis à leur rendre service. Et c'est un des plus grands biens matériels. Alors, moi, ce que je veux, c'est de continuer à vivre avec ma famille le plus longtemps possible, et avec une bonne santé, puis de continuer à réaliser des choses simples, mais qui nous rendent heureux quand même.
Michel Lébreux, ça a été un plaisir. Merci encore d'être passé à nos studios.
Ça m'a fait plaisir.
À Vivant dans nos mémoires, vous venez d'entendre une entrevue réalisée en février 2015 par Danny Benz avec Michel Lébreux, directeur d'école retraité, passionné d'histoire, auteur de l'ouvrage « Le pont de Québec ». Il est décédé en 2023.